Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, les chrétiens et la culture. Tel est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître en 2016 aux éditions des Belles Lettres, dont l'auteur Sébastien Morlet, helléniste, maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, travaille sur les textes chrétiens de la fin de l'Antiquité. Sébastien Morlet, un livre très riche, petit, très facile à lire, je dirais. Il est petit de taille en plus, facile à transporter. Et en même temps, qui touche à une question très profonde, pas facile. C'est dit avec beaucoup de clarté, c'est un grand avantage. Une première question, définir la culture. Les chrétiens, c'est plus facile à définir, mais la culture, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qu'on utilise tellement aujourd'hui.
Oui, le problème, c'est que c'est une notion qui a justement beaucoup évolué. Et je crois que les chrétiens ont joué un rôle important, justement, dans cette évolution. C'est l'une des thèses du livre. Alors aujourd'hui, on utilise ce mot un peu dans tous les sens. Il y a une culture de tout. Dans l'Antiquité, le mot a un sens beaucoup plus précis, beaucoup plus technique. D'abord, il vient du latin, il faut le rappeler, et il renvoie à la métaphore de l'agriculture. Donc la notion de culture qu'on doit au latin, mais également au grec, je vais y revenir, désigne cette façon de cultiver son esprit, son humanité. Et pour les Grecs et les Latins, on ne cultive pas son humanité n'importe comment, on la cultive essentiellement à travers l'enseignement, hein, ce qui se dit paideia en grec. Et la paideia, dans l'Antiquité classique, hellénistique, et puis à l'époque de l'Empire romain, désigne très précisément un certain nombre de disciplines, comme la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Et la plupart de ces disciplines étaient dispensées au niveau que nous appellerions aujourd'hui secondaire, hein, c'est-à-dire qu'elles définissent en fait l'enseignement commun qui est dispensé à tous les lettrés. Donc la culture, c'est ça dans l'Antiquité.
Dans l'Antiquité, oui, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Alors, quand on lit les chrétiens et la culture, que faut-il comprendre ?
Alors, il faut comprendre que j'ai essayé dans ce livre, justement, de situer les chrétiens dans l'histoire de l'évolution de la notion de culture. Je crois que le fait majeur dans l'histoire de cette notion, c'est le passage d'un sens extrêmement précis, qui est celui que je viens de décrire, à un sens très ouvert, une acception d'ailleurs qui ne cessera de s'ouvrir avec les différentes formes que prendra l'humanisme européen dès le Moyen-Âge et puis bien sûr sous la Renaissance. On va passer progressivement d'une notion extrêmement réduite, circonscrite à un corps de doctrine, à une conception de la culture qui accueille dans la culture tout ce qui, je dirais de près ou de loin, peut nourrir l'humanité de l'homme. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que d'abord, les chrétiens, au premier siècle de l'existence de l'Église, sont confrontés à la culture grecque. Donc, ils doivent composer avec l'existence de cette autre sagesse qui n'est pas la sagesse biblique. Alors, certains sont pour, certains sont contre. J'essaye de retracer les différents courants qui sont en présence. Mais au-delà de cette confrontation, ils engagent également une réflexion de fond sur ce qu'est la culture et sur la façon dont on peut et dont on doit cultiver son esprit. Et des auteurs du 2e et du 3e siècle, comme Clément d'Alexandrie ou Origène, par exemple, proposent, selon moi, pour la première fois, donc c'est quelque chose d'assez important dans l'histoire, une conception beaucoup plus ouverte de la culture qui n'est plus liée à la notion d'hellénisme et qui accueille dans la culture tout ce qui peut nourrir l'esprit de l'homme et son humanité. Et bien sûr, pour ces chrétiens que sont Clément et Origène, la pratique des vertus compte beaucoup. Et il y a, bien évidemment, le texte biblique, qui est pour eux une source de sagesse fondamentale.
Merci beaucoup. Je vais à la fin de la... Si je m'ai compris, je crois que dans vos conclusions, vous dites quelque chose qui m'a beaucoup étonné. C'est que vous dites que l'ouverture offerte par le christianisme à la notion de culture finit par permettre cette ouverture actuelle du mot culture et qui fait que parfois on a déchristianisé même la culture aujourd'hui, etc. Et que le christianisme est en quelque sorte la clé qui a permis cette ouverture d'un monde clos antique vers un monde très ouvert qui regarde un peu partout.
Oui, alors ça me semblait être une conclusion intéressante parce qu'on se représente souvent le christianisme plutôt comme un élément autoritaire qui aurait imposé une vérité, qui aurait mis fin au dialogue, à la confrontation des doctrines. Et on s'aperçoit que sur cette question très particulière de la culture, alors encore une fois, tous les chrétiens ne sont pas d'accord dans l'Antiquité, il y a des chrétiens qui sont contre la culture grecque, mais je dirais que ceux dont la vie s'est imposée, en Occident médiéval surtout, et à Byzance, ce sont des chrétiens qui sont ouverts à la culture grecque, mais qui, encore une fois, au-delà de cette ouverture, proposent une conception de la culture qui est extrêmement large et qui accueille finalement toutes les conceptions du savoir, dans la mesure, encore une fois, où elles peuvent s'accorder avec les vérités bibliques. Donc ce que j'ai essayé de dire pour conclure ce livre, c'est que effectivement, avec les textes chrétiens de l'Antiquité, on était probablement au point de départ d'un élargissement sémantique très important de la notion de culture. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans nos sociétés sur cet emploi un peu à tort et à travers de la notion de culture. C'est un usage du mot culture qui ne plaît pas à tout le monde. Je fais un parallèle un peu humoristique à la fin entre la situation des chrétiens justement dans l'Antiquité confrontés aux païens et les débats d'aujourd'hui, pour rappeler simplement ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est que les chrétiens ont été jadis les barbares des païens. Hein, et les païens leur reprochaient précisément de trahir l'idéal antique de culture en le mettant à toutes les sauces et en l'associant à des contenus qui, pour les païens, n'avaient absolument rien de culturel.
Alors, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire. La païdéia, l'éducation, la culture antique, au contact du christianisme. Alors, comment cela se fait-il? C'est progressif, évidemment. Il y a des chocs, peut-être, aussi. Hein, et il y a des exclusions, aussi.
Oui, alors, à vrai dire, cette confrontation, elle apparaît très tôt. Dans l'Église, on en a déjà des traces dans le Nouveau Testament. Et les auteurs vont se partager très rapidement, dès le IIe siècle, en deux groupes, hein, pour dire les choses simplement. Il y a des chrétiens qui rejettent la culture grecque, hein, qui ont tendance à estimer que le savoir ne se trouve que dans le texte biblique. Alors, je m'attarde essentiellement dans le livre sur trois groupes de chrétiens. Il y a certains apologistes, c'est-à-dire des chrétiens qui écrivent au IIe siècle des défenses du christianisme, et des auteurs comme Tatien et Théophile d'Antioche, qui estiment qu'il n'y a rien de bon dans la culture grecque, hein, il n'y a que des erreurs, que de l'errance, que de l'incertitude. Les hérésiologues, c'est-à-dire les chrétiens qui réfutent l'hérésie, vont également souvent s'opposer à la culture grecque, parce qu'ils estiment que la culture grecque est l'une des sources, la source majeure d'ailleurs, de l'hérésie. Et puis enfin, il y a les auteurs monastiques, ceux qui écrivent notamment des vies de moines et qui prennent souvent position contre la culture. On connaît bien la vie d'Antoine d'Athanase, par exemple. Antoine est présenté clairement par Athanase comme un analphabète et un homme qui revendique son ignorance. Donc voilà, trois groupes de chrétiens qui sont plutôt opposés à la culture. Mais en face de ces chrétiens, on a également d'autres chrétiens que je pourrais appeler les humanistes, si vous voulez, qui, eux, essayent au contraire de démontrer, souvent d'ailleurs contre le premier groupe de chrétiens, qu'il y a du bien à tirer de la culture grecque, qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la sagesse des Grecs et la sagesse de l'Écriture. Et un auteur comme Clément d'Alexandrie, par exemple, va même aller jusqu'à dire que la culture grecque est fondamentale, qu'elle fait partie du plan divin, qu'elle représente un testament pour les Grecs comparable au testament des Juifs. Il y aurait dans la culture grecque, pour tous ces chrétiens, j'ai parlé de Clément, j'aurais pu parler d'Origène, j'aurais pu parler des Cappadociens également, des vérités et une utilité pour le chrétien.
Alors, les pères cappadociens au IVe siècle, c'est-à-dire Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire dit de Nazianze ici, le théologien pour l'Église orthodoxe et pour l'Orient, et Grégoire de Nice, le frère donc de Basile. Et là-dedans, il y a Basile qui répond en quelque sorte à cette question, puisque nous connaissons son texte aux jeunes gens, comment tirer profit des lettres grecques. Hein, je crois que la réponse, c'est qu'il faut un discernement. Enfin,
bon. Voilà, exactement. Ce texte de Basile est très important, il a été très lu, et il constitue un bon résumé des idées qui circulent justement chez ces auteurs plutôt humanistes. La grande idée de Basile, c'est que il faut savoir faire un tri. Hein, il y a du bon et du mauvais chez les auteurs grecs, mais dès lors qu'on est en mesure de faire ce tri, eh bien, on peut faire servir la science grecque et la culture grecque au bien de l'âme, étant entendu, ça c'est une autre idée très importante de Basile, que les disciplines des Grecs ne peuvent jouer tout au plus qu'un rôle d'introduction à la vérité. Ce qui veut dire également qu'elles ont un rôle à jouer très important dans l'éducation, je dirais, préliminaire du chrétien, dans sa formation intellectuelle.
Merci beaucoup. Alors, Saint Basile est un grand-père de l'Église, bien sûr, quelqu'un à qui est attribué une des liturgies que l'on célèbre dans le monde orthodoxe, donc liturgie dite de Saint Basile. Il y a aussi la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la plus courante, qui est célébrée pratiquement toute l'année, à quelques exceptions près. Un extrait donc de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est un Alléluia, pour montrer que dans la liturgie, évidemment, il y a beaucoup d'emprunts, c'est la tradition aussi vétérotestamentaire qui est là. Un Alléluia, donc chanté par le chœur byzantin de Grèce, dirigé par Lycouros Angelopoulos. Alléluia, extrait de la Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, chanté par le chœur byzantin de Grèce sous la direction de Lycouros Angelopoulos. Retour à notre entretien avec Sébastien Morlet, helléniste, maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, sur son livre « Les chrétiens et la culture », livre paru en 2016 aux Belles Lettres. Sébastien Morlet, la culture donc, un mot qu'on essaie de définir et qui n'est pas toujours facile de définir, parce que la définition antique et la définition moderne ne sont pas du tout les mêmes. Alors, quel est l'emploi que font les chrétiens de toutes les disciplines, de ce qui compose la culture, de ce qui fait le cœur même dans la culture?
Alors, ils en font un emploi très, très varié. De manière générale, ils se servent des disciplines de la culture, je dirais, pour exposer leur foi, éventuellement pour la défendre, et dans certains cas, pour essayer de la comprendre, et de comprendre le texte biblique. On peut prendre quelques exemples pour essayer de comprendre un peu comment cela fonctionne concrètement. La grammaire et la rhétorique, par exemple. Il y a, dans le domaine des études littéraires, qui sont l'objet propre de l'enseignement de la grammaire dans l'Antiquité, un certain nombre de genres littéraires qui vont intéresser les chrétiens plus particulièrement. La poésie, par exemple. On a tout un débat dans l'Antiquité sur le statut de la poésie grecque. Est-ce qu'il faut rejeter la poésie? Est-ce qu'il y a du bon à prendre dans la poésie? Donc on a des chrétiens qui estiment que la poésie est essentiellement liée au mensonge, ça n'est pas une forme authentique et légitime d'expression, mais on a également des chrétiens qui vont utiliser l'expression poétique. On a parlé de Grégoire de Nazianze tout à l'heure, il est connu justement, parmi d'autres choses, pour avoir écrit des poèmes. Un autre genre littéraire qui intéresse beaucoup les chrétiens, c'est l'histoire. On sait qu'il y a une historiographie chrétienne qui va se constituer à partir du début du IVe siècle avec Eusèbe de Césarée. Les chrétiens écrivent l'histoire, ils ont un intérêt à écrire l'histoire, et ils connaissent, bien entendu, la tradition historiographique issue du monde classique. Ils utilisent d'ailleurs cette historiographie parce qu'ils en ont besoin pour calculer la date de la création du monde ou pour situer différents événements qui pour eux sont importants, comme l'incarnation évidemment. Le même Eusèbe a composé une chronique universelle dans laquelle il exploite abondamment le matériel réuni par l'historiographie grecque. Donc on a là quelques exemples d'utilisation tout à fait pratique des disciplines de la culture grecque. La dialectique, de la même façon, sera très utilisée au cours des débats théologiques. Je pense notamment à la crise arienne, à partir du début du IVe siècle, c'est-à-dire ce grand débat sur la nature de la Trinité, notamment sur la nature du Fils, hein, la question de savoir si le Fils est de la même substance que le Père, les chrétiens vont déployer bien souvent toute une argumentation dialectique pour démontrer ou bien que le Fils est de la même substance que le Père, ou bien que, par définition, il ne peut pas être de la même substance que le Père, ce qui est la position des Ariens. Et on pourrait en dire autant des disciplines que nous appelons aujourd'hui scientifiques, c'est-à-dire l'arithmétique, la géométrie, par exemple, qui seront très souvent utilisées par les chrétiens dans l'exégèse du texte biblique. Alors, le texte biblique, je pense notamment à la Genèse, à l'Exode, fait allusion très souvent à des nombres qui d'ailleurs ont souvent une valeur symbolique, et l'arithmétique, voire l'arithmologie, hein, c'est-à-dire toutes les spéculations d'ordre philosophique qu'on attache à l'étude des nombres dans l'Antiquité, est souvent mis à profit par les chrétiens pour comprendre le texte biblique. Par exemple, dans l'Exode, Moïse doit construire une tente qui doit comporter 28 coudées de long, et un auteur comme Origène explique que 28 c'est 4 fois 7, 4 ça symboliserait les évangiles, 7 ça symboliserait la loi, et donc il y aurait là une annonce mystérieuse de l'évangile à travers la loi. Hein, vous voyez comment tous ces chrétiens finalement mettent à profit de façon très particulière, bien souvent en les christianisant, les contenus de l'enseignement culturel des Grecs.
Il faudrait peut-être rappeler ici que actuellement nous avons besoin de connaître ce monde de l'Antiquité, ce monde de la païdéia grecque, justement pour comprendre certaines fois le raisonnement et la présentation des œuvres chrétiennes de ces siècles-là. Autrement, on ne comprend pas. Le message est profondément chrétien, mais le langage, la technique ne l'est pas, parce que c'est la technique héritée du monde antique, et ça va continuer d'ailleurs dans les temps byzantins. Très vite, une question très difficile. Il y a-t-il vraiment une culture chrétienne? C'est quoi la culture chrétienne? Est-ce que c'est la culture ancienne plus quelques textes, ou c'est quelque chose de différent?
Alors, je crois qu'il y a deux façons de répondre à cette question. On pourrait d'abord comprendre l'expression culture chrétienne comme finalement l'appropriation chrétienne de la culture grecque, hein, c'est-à-dire la façon dont les chrétiens ont récupéré la culture grecque, mais on peut se demander également s'il existe dans l'Antiquité, à travers tous ces auteurs qui m'intéressent, l'idée d'une culture qui serait spécifiquement chrétienne, c'est-à-dire qui n'aurait rien à voir avec l'hellénisme. Et je crois que les textes vont un peu dans ce sens, c'est-à-dire que, encore une fois, des auteurs comme Clément d'Alexandrie ou Origène essayent de défendre l'idée qu'il existerait une façon typiquement chrétienne de cultiver son esprit à travers, encore une fois, la pratique des vertus et l'exégèse du texte scripturaire. On a donc bien, pour ces auteurs en tout cas, l'idée d'une culture spécifiquement chrétienne.
Merci beaucoup Sébastien Morlet. Alors avant de terminer, quelques mots sur votre enseignement à l'Université Paris-Sorbonne. Enseignement qui s'inscrit dans la lignée... commencé, initié par Madame Marguerite Arles, que nous avons souvent eu l'honneur de recevoir ici, que dirige actuellement le professeur Olivier Munich, une chaire qui justement s'intéresse à l'Antiquité tardive, mais le côté chrétien de l'Antiquité tardive. Alors quelques mots là-dessus, et puis le fait aussi que maintenant, une partie de cet enseignement en tout cas est accessible par le net, hein, c'est ça, on peut aller avoir quelques cours.
Oui, alors il faut savoir que la Sorbonne, depuis 1958, depuis la création de cette chaire, justement, avec Marguerite Arles, est un des centres importants en France dans lesquels on étudie la patristique. Avant tout, je dirais, selon la problématique qui m'a intéressé dans ce livre, je m'inscris donc pleinement dans une tradition qui consiste à étudier les textes chrétiens sur le fond de la tradition grecque, mais également de la tradition juive. C'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un aspect qui nous intéresse. Donc, les travaux qui ont été initiés par Marguerite Arles, qui était elle-même l'élève de Henri-René Maroux, un grand nom de l'histoire du christianisme, ont lancé des générations de chercheurs. Vous avez parlé du professeur Olivier Munich. Moi-même, je suis maître de conférence à la Sorbonne. Nous travaillons sur ces textes en essayant de comprendre comment émerge la pensée chrétienne, comment les chrétiens sont à la fois les héritiers du monde grec classique et comment ils ont pu, à travers leur doctrine, innover. Et j'ai eu la chance tout récemment de tenter une expérience pédagogique innovante, puisque on m'a demandé à la Sorbonne de faire un MOOC, hein, c'est-à-dire un cours en ligne totalement gratuit, accessible par tout internaute, qui se trouve sur la plateforme EDX. C'est une plateforme américaine, mais ça se trouve très facilement sur Google. Ce MOOC est consacré aux relations du christianisme et de la philosophie dans l'Antiquité. Et voilà, c'est une nouvelle forme d'enseignement. J'espère que c'est une forme d'enseignement qui va profiter à ces études, qui va permettre de faire connaître un peu ces auteurs qu'on ne connaît pas bien souvent et qui ont eu, à mon avis en tout cas, une importance fondamentale dans l'histoire des idées.
Écoutez, merci beaucoup. Alors, comme ça, presque, très rapidement, en fait, quelques indications biographiques. Le livre qui vient de paraître, Les chrétiens et la culture, dont vous êtes l'auteur. Un autre livre que vous avez fait, que nous avions présenté ici, Christianisme et philosophie, les premières confrontations du 1er au 6e siècle. Vous avez parlé d'Henri-René Maroux, Histoire de l'éducation de l'Antiquité. Et puis, évidemment, visitez ce site. Il y aura tous ces renseignements sur notre site. Merci beaucoup Sébastien Morlet. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation Sylvie Migaud. Prise de son Manuel Couturier. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.